Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Au sommaire, le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres de renforcer immédiatement la coopération avec les États voisins pour lutter contre l'antivirus. Au Liban, les frappes menées par l'armée israélienne depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril ont fait 380 morts, selon le ministre libanais de la Santé. Et enfin, le pouvoir iranien a écarté l'idée de modifier ses propositions pour mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient, des propositions rejetées par les États-Unis. Nous l'avons évoqué dans les titres, la France demande une coordination plus étroite des protocoles sanitaires mis en place dans les pays de l'Union européenne pour lutter contre l'antivirus. Une déclaration de Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Il a demandé à ses ministres de renforcer immédiatement la coopération avec les États voisins. Les Français cas contact de la passagère du Hondius décédée du hantavirus sont hospitalisés ou en cours d'être hospitalisés, selon la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Elle tient en ce moment même une conférence de presse sur l'hantavirus en compagnie de médecins spécialistes. Et le patron de l'Organisation mondiale de la santé a estimé que le travail des autorités sanitaires n'était pas fini après l'évacuation réussie de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage du navire où le foyer d'antivirus s'est déclaré. Sur la guerre au Moyen-Orient maintenant, au Liban, une frappe vient à tuer deux secouristes dans le sud du pays où ils effectuaient une intervention selon la défense civile. Et toujours au Liban, les frappes menées par l'armée israélienne depuis l'instauration du cessez-le-feu le 17 avril ont fait 380 morts selon le ministre libanais de la Santé. Le chef du Hezbollah libanais, Naïm Qassem, s'est exprimé. Il a affirmé que la question du désarmement de sa formation, exigée par Israël, ne faisait pas partie des négociations, ajoutant que son groupe allait transformer la bataille avec l'armée israélienne en enfer. Ce sont ses mots. Et le pouvoir iranien a écarté de son côté l'idée de modifier ses propositions pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, après que le président américain Donald Trump a jugé que le document reçu de Téhéran était bon à mettre à la poubelle. Ce sont ces mots. Conséquence de la guerre, les prix du pétrole grimpent, faute d'accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin au conflit et réouvrir le détroit d'Ormuz. Dans le reste de l'actualité, on reste au Moyen-Orient. Le Parlement israélien a adopté une loi instaurant un tribunal militaire spécial habilité à prononcer la peine capitale pour juger des Palestiniens accusés d'avoir participé à l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023. Et autre information, un enfant palestinien est tué en moyenne chaque semaine en Cisjordanie depuis janvier 2025, soit un total de 70 sur la période, a dénoncé le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF. Et enfin en France, le ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste, a décidé d'atténuer le durcissement prévu à la rentrée concernant les droits d'inscription des étudiants étrangers en relevant le plafond d'exonération accordé aux universités, selon le ministère. C'était votre rendez-vous. Restez avec nous à suivre les dossiers du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, les dossiers du jour. Premier dossier, regard sur les sanctions adoptées hier par l'Union européenne. Sanctions contre des colons israéliens extrémistes de Cisjordanie. Seront concernés ceux coupables de violences contre les Palestiniens. Certains États membres voulaient aller plus loin, sans succès. On fait le point avec Marc-Aurèle Barrez.
Les sanctions restaient bloquées depuis des mois. C'est Viktor Orban, l'ex-premier ministre hongrois, réputé proche de Benjamin Netanyahou, qui était à la manœuvre. Alors, la situation désormais est débloquée. Et sur X, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est félicité. C'est fait, l'Union européenne sanctionne aujourd'hui les principales organisations israéliennes, celles qui soutiennent la colonisation extrémiste et violente de la Cisjordanie. Fin de citation. En effet, ce sont 7 colons extrémistes et leurs organisations qui sont actuellement concernés, mais aussi 12 responsables du Hamas. Les sanctions prévoient un gel de leurs avoirs dans l'Union européenne et l'interdiction d'entrer sur le territoire des 27. Enfin, de son côté, Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, fulmine pour lui, je cite, « Israël et les États-Unis se battent pour la civilisation contre les fanatiques djihadistes. Avec ces sanctions, l'Union européenne a révélé sa faillite morale. » Fin de citation. Et face à la situation en Cisjordanie, des pays comme l'Espagne ont appelé à aller plus loin, faute de quoi l'Union européenne perdrait toute crédibilité. Rappelons que dans ce territoire occupé par Israël, ce sont plus de 1000 Palestiniens, des combattants mais aussi de nombreux civils, qui ont été tués depuis le 7 octobre 2023. Alors face à cela, qui s'est mobilisé? La France, l'Espagne ou encore la Suède? Ils réclament des mesures pour limiter, voire interdire totalement les exportations israéliennes en Europe, l'Union étant le premier partenaire commercial d'Israël. Pour le moment, la proposition n'est toujours pas sur la table. À Bruxelles, on explique que la Commission traîne des pieds. Elle veut s'assurer une majorité sur ce point, ce qui reste encore à prouver.
Réaction maintenant suite à cet accord de l'ex-président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat, l'ex-sénateur Gilbert Roger.
C'est un premier pas en avant de décision collective européenne et je pense qu'il était temps que nous marquions notre opposition à ce laisser-faire organisé par le gouvernement israélien avec, vous l'avez dit, parfois des bienveillances, en Europe avec M. Orban, par exemple. On ne peut pas laisser des colons s'installer, organiser des violences extrêmes allant jusqu'à des meurtres et piller le peu de richesses de la Cisjordanie occupée.
Concrètement, qu'est-ce que ces sanctions vont changer, sachant qu'il n'y a pas de sanctions véritablement économiques aujourd'hui?
Non, il n'y a pas de sanctions économiques, mais vous savez, c'est un premier pas qui peut amener des citoyens ou des organisations à se retourner devant la Cour pénale internationale et nommément désigner des gens qui sont coupables de violences extrêmes. Donc ça peut amener des Israéliens à s'interroger eux-mêmes. On le voit bien dans les manifestations qui ont eu lieu ces jours derniers, où des Israéliens commencent à être inquiets de ces violences extrêmes.
La France a-t-elle été en pointe dans ce dossier? On se souvient des propos de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui avait émis le souhait de donner des sanctions à l'encontre des colons.
Je pense que notre attitude gouvernementale va dans le bon sens et ça correspond à l'étape d'avant qui a été la reconnaissance de l'État de Palestine vivant aux côtés d'Israël.
C'était l'ex-président du groupe d'amitié France-Palestine au Sénat, l'ex-sénateur Gilbert Roger. Second dossier, Emmanuel Macron a clôturé le forum des affaires du sommet franco-africain à Nairobi, au Kenya, en s'adressant aux jeunes Français d'origine africaine. Soyez fiers, ce sont ces mots, on l'écoute.
Il y a des millions et des millions de jeunes en France qui sont des diasporas comme vous. Et pendant trop d'années, on leur a dit « excuse-toi d'être d'une diaspora, excuse-toi d'être ceci ou cela, ou fais oublier un peu ». Non, vous êtes 100% française, 100% algérienne. Accumulez-les, redoublez-les, on en a besoin. Parce que c'est un accélérateur pour nous Français d'avoir des jeunes comme vous qui sont françaises et algériennes, françaises et centrafricaines, et qui ont envie de dévorer le monde, de conquérir plein de choses, mais qui sont avec nous. C'est très important pour moi. Et donc soyez fiers de cette diaspora, soyez totalement française et totalement africaine. Et moi c'est aussi pour ça que je suis là. Parce que dans notre pays, il y a des millions et des millions de nos jeunes qui sont totalement français et totalement africains. Et c'est une immense chance pour le pays.
Vous venez d'écouter le président français Emmanuel Macron. Dernier dossier, on va discuter des relations entre la France et l'Algérie. Le journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison et détenu depuis près d'un an en Algérie, a reçu la première visite d'un diplomate français depuis son incarcération. Paris et Alger ont décidé d'intensifier leur coopération, notamment en matière de sécurité et de défense. Après la visite en Algérie de la ministre française déléguée aux armées, Alice Ruffo, qui a rencontré samedi le président algérien Abdelmadjid Tebboune. Elle s'est exprimée cet après-midi à l'Assemblée nationale. On l'écoute.
Je voulais informer la représentation nationale qu'hier, il a reçu pour la première fois une visite consulaire et bien évidemment rappeler notre souhait qu'il puisse rentrer rapidement en France. Deuxièmement, je me suis en effet rendue en Algérie et j'ai rencontré les plus hautes autorités algériennes, le président de la République et également le chef d'état-major des armées. Nous avons relancé la coopération de défense et de sécurité qui est essentielle dans la période de déstabilisation que nous connaissons en Méditerranée, au Moyen-Orient et bien évidemment au Sahel. Ensuite, nous avons continué à la suite de la visite qu'avait effectuée le ministre de l'Intérieur et qui a permis la reprise de la coopération migratoire. Zéro laissez-passer consulaire à la même époque l'année dernière. Aujourd'hui, elle reprend et nous allons continuer en ce sens. Tout simplement parce que ça marche. La France ne doit qu'à elle-même de regarder son histoire en face et elle se le doit à elle-même. Je suis fière de servir les intérêts d'un pays qui sait regarder son histoire en face dans ses parts de grande lumière comme dans ses parts d'ombre. Je suis fière de servir un pays qui respecte la souveraineté des peuples et le droit international. Et de cela, monsieur le député, jamais, jamais je n'aurai honte. Respecter la France, c'est respecter ses intérêts. Il est dans son intérêt d'avoir un dialogue fonctionnel avec l'Algérie.
C'était Alice Ruffo, ministre française déléguée aux armées. C'était les dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.